Relisons ensemble l'Exode 20, 1 à 17. Exode, chapitre 20. Donc, Exode, c'est le deuxième livre dans la Bible. Chapitre 20, verset 1. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni même son bœuf, son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Donc ici, on trouve les 10 commandements de Dieu qui sont répétés aussi dans Deutéronome, dans une forme légèrement différente. Et revoyons d'abord ce qu'on a vu la semaine passée. On voit ici pourquoi Dieu donne ces 10 commandements-là. C'est dans quel contexte? Précisément, c'est dans le contexte où Dieu établit son alliance avec son peuple. Donc, on doit voir les 10 commandements et même tout le reste de la loi qui est donnée comme étant les clauses du contrat d'alliance que Dieu fait avec son peuple d'Israël. Donc, pour cette période de l'histoire de l'humanité où Dieu a un peuple terrestre choisi parmi les autres peuples. Et plus tard, cette loi sera appelée la loi de Moïse. Donc, souvent, dans le Nouveau Testament, on l'appelle la loi de Moïse ou simplement la loi. On a vu aussi que nous ne sommes pas aujourd'hui, nous, alors que les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sous l'autorité directe de la loi de l'Ancien Testament. Nous sommes sous une nouvelle alliance et dans le cadre de cette nouvelle alliance-là, il y a des commandements, des prescriptions que le Seigneur Jésus nous a données, dont le commandement qui résume tout, c'est « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, nous sommes sous la loi de Christ et non sous la loi de Moïse. Mais puisque les deux proviennent du même Dieu et tous les deux sont une expression de la loi de Dieu, c'est sûr qu'on retrouve beaucoup de similitudes entre les lois de l'Ancien Testament et la volonté de Jésus dans le Nouveau Testament. Et même la pensée derrière tous ces 10 commandements-là se retrouve presque intégralement dans le Nouveau Testament. Mais puisque nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament, est-ce que c'est encore utile de l'étudier? Oui, premièrement, parce qu'elle nous révèle Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu. Par exemple, si Dieu dit de ne pas commettre de meurtre, de ne pas tuer, ça révèle que c'est important pour Dieu la vie humaine. Donc, on apprend à connaître Dieu avec toutes les prescriptions, les commandements qu'il nous donne. On apprend à connaître sa volonté, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, celui qui veut servir Dieu, lui rendre un culte qui lui est agréable, va étudier sa volonté, va étudier sa loi pour mieux le connaître. Et même si nous sommes rendus à l'époque de la Nouvelle Alliance de Jésus-Christ, la loi de l'Ancien Testament est encore très utile aussi, deuxièmement, parce qu'elle nous révèle Christ. On voit même que la loi de l'Ancien Testament est dans un sens prophétique. Elle a été donnée sous cette forme-là pour annoncer Jésus qui allait venir. Jésus est venu non seulement pour accomplir ce que les prophètes avaient annoncé de lui, mais même pour accomplir la loi. Toute la loi, Jésus est venu l'accomplir. Donc, en étudiant la loi, ça nous aide à comprendre qui est Jésus, quelle est son œuvre, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce même qu'il va continuer à faire pour l'éternité. Et pour chaque partie de la loi, chacun des commandements, chaque prescription, on peut se poser 2 questions. Une première question, c'est quel est l'esprit derrière cette loi-là? Quelle est la pensée de Dieu? Quel est le principe général qu'on peut appliquer même dans d'autres situations? Quel est le principe derrière cet énoncé-là, ce commandement-là? Et comment ce principe-là, Jésus nous exhorte, nous enseigne à l'appliquer dans nos vies? Donc, comment cette loi-là, elle est accomplie en Jésus? Et comment Jésus veut que nous pratiquions la volonté de Dieu. Et la semaine passée, on a vu les deux premiers commandements. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face. Donc Dieu déclare qu'il est le seul. Il veut un culte où son peuple adore un seul Dieu. Et c'était vraiment contraire à la culture de l'époque où les nations adoraient une multitude de dieux. Et même le peuple d'Israël, à ce moment-là, adorait d'autres dieux, malheureusement. Ils avaient pris les habitudes alors qu'ils étaient en Égypte. Ils étaient environnés de toute façon. Il y avait beaucoup de pression pour qu'ils adorent toutes sortes de dieux. Et c'était bien vu même. Mais Dieu leur dit, « Non, à partir de maintenant, vous n'adorez que moi seul. Et vous ne vous ferez pas non plus de représentation d'aucun dieu, et même pas de moi-même. Je ne veux pas que vous utilisiez un élément de ma création pour me représenter. Vous ne pouvez pas vous faire une image du soleil pour dire, « Ah, ça, c'est l'Éternel. » Vous ne pouvez pas vous faire un veau en or pour dire, « Ça, c'est l'Éternel qui vous a libéré d'Égypte. » Donc, Dieu ne voulait pas cela. Donc, tout cela, on voit que Dieu exigeait un amour inconditionnel envers lui. Il voulait un amour exclusif. Il voulait que son peuple l'aime comme lui l'aime. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui vont enfreindre ses commandements sont ceux qui haïssent et Dieu va sévir. Mais ceux qui lui obéissent, ceux qui respectent ses commandements, sont ceux qui l'aiment. Donc déjà ici, Dieu ne le spécifie pas clairement comme dans Deutéronome, mais il demande dans le fond que ses serviteurs l'aiment de tout leur cœur, qu'ils le servent. Donc pour les Israélites, le respect de l'Alliance était directement dépendant de leur amour de Dieu et de leur reconnaissance du fait que Dieu les avait libérés de l'esclavage. Déjà, ça nous donne une indication de à quel point Dieu accorde de l'importance à une alliance. Et nous sommes dans l'alliance que Jésus a établie par son sang, l'alliance que nous rappelons, que nous allons rappeler un peu plus tard dans le culte, avec la table du Seigneur. Et nous comprenons comment, pour Dieu, à quel point c'est important le respect de cette alliance-là. C'est toute notre vie, en fait, qui est impliquée dans cette alliance. On va voir aujourd'hui trois autres commandements. Et les trois sont liés dans le sens que les trois font appel ou soulignent l'honneur qui est dû au Dieu créateur sur différents aspects, mais les trois sont en lien avec l'honneur que Dieu mérite et qu'on devrait lui donner. Premièrement, au niveau de son nom. Donc, le troisième commandement au verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » L'interdiction de prendre son nom en vain, c'est directement une expression de l'honneur qui est dû à Dieu. L'honneur qui doit être rendu à Dieu. Dieu, dans le fond, leur interdit de déshonorer son nom. De manquer de respect à son nom. Il ne voulait pas que les Israélites fassent comme les autres nations qui utilisaient le nom de leur Dieu pour toutes sortes de choses. En manquant carrément de respect, même si ce sont de faux dieux. Mais il ne voulait pas qu'Israël répète cette même habitude-là. Et c'est une tendance, de toute façon, dans le cœur humain, d'utiliser le nom de Dieu en vain. Et dans la Bible, le nom de quelqu'un est important. Le nom d'une personne, souvent, ça désigne sa personne elle-même, ou une partie de son être. Ça désigne sa présence. C'est pour ça même que Dieu prend la peine, dans certaines situations, de nommer une personne. Ou de renommer. Il a renommé Abraham en Abraham, Saraï en Sarah, Jacob en Israël. On a plusieurs exemples. D'autres exemples où Dieu dit d'avance aux parents comment ils vont nommer leur fils. Donc pour Dieu, le nom d'une personne a de l'importance. Donc le nom de Dieu a vraiment de l'importance. Et l'expression « le nom de Dieu » ou « le nom de l'Éternel » est souvent utilisée. Et ça peut désigner plusieurs choses. Premièrement, ça désigne son autorité. Si quelqu'un agit au nom de Dieu, ça veut dire qu'il agit au nom de l'autorité de Dieu, de l'autorité de l'Éternel. Ou si un prophète parle au nom de Dieu, il parle au nom de l'Éternel, il annonce les oracles de l'Éternel. Le nom de Dieu aussi, ça peut désigner sa présence. Quand Dieu dit qu'il met son nom sur son peuple, le peuple d'Israël, ça veut dire qu'il est présent parmi eux. Il met son nom sur la terre de Canaan qu'il leur a promise, donc il va être présent sur cette terre. Ça désigne aussi sa volonté, qui est directement liée à son autorité, mais le nom de Dieu, craindre le nom de Dieu, c'est craindre ce que Dieu a révélé à propos de lui, c'est sa révélation. Tout cela, en fait, ne doit pas être pris en vain. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre le nom de Dieu en vain? Ça peut vouloir dire de prendre le nom de Dieu d'une manière inutile pour des choses qui sont vaines, des choses de ce monde qui vont passer, qui ne servent à rien. et qui n'ont aucun lien avec ce que Dieu veut. On utilise le nom de Dieu sans se soucier de si c'est en accord avec la volonté de Dieu ou non, et même si ça a un quelconque lien avec la volonté de Dieu. Donc, l'utiliser pour des choses vaines, secondaires, qui n'ont rien à voir avec le culte livré à Dieu. Ou carrément, utiliser le nom de Dieu pour des choses mauvaises. Comme à l'époque, on pouvait prêter serment au nom de Dieu sans l'accomplir. Donc, prêter un vœu, dire « je vais faire telle chose au nom de Dieu » et finalement, ne pas l'accomplir. Pour Dieu, c'est prendre, avoir utilisé son nom en vain. Et c'est l'avoir utilisé pour quelque chose qui finalement est faux ou qui s'avère être mauvais. Et son nom est associé avec un abandon, une infidélité ou carrément une malhonnêteté. Ça peut être simplement de déclarer être un serviteur de Dieu, serviteur de l'Éternel, mais vivre d'une manière contraire à cela. On vit dans le péché. C'est déshonorer son nom. Comme Paul dit dans Romains, il s'adressait aux Juifs qui se pensaient supérieurs aux païens parce qu'ils avaient la loi. Mais il dit, toi qui te fais une gloire d'avoir la loi, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Donc la conduite pécheresse faisait en sorte que le nom de Dieu était déshonoré, blasphémé. Donc les autres qui regardaient cela se moquaient, en fait, d'eux et se moquaient de Dieu. Donc on voit le principe derrière ce commandement-là. C'est que lorsque quelqu'un est identifié à Dieu, il doit l'honorer. Il doit agir de manière à ne jamais lui faire honte. Jamais déshonorer son Dieu. Donc, agir d'une manière digne d'être appelé un serviteur de Dieu. Puis, d'une manière très concrète, manquer de respect au nom de Dieu, c'est manquer de respect à Dieu. Manquer de respect au Créateur. Est-ce que ce commandement-là trouve un accomplissement en Jésus? Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament qu'en réalité, il n'y a aucun homme qui a réussi en tout temps, à tout moment, à honorer Dieu comme il le doit. Et ça demandait une solution. Et cette solution-là, c'est Jésus-Christ qui est venu comme homme et qui a porté le nom de Dieu sur lui. Pas seulement en déclarant être un serviteur de Dieu, mais même littéralement le nom de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu, donc il est directement engendré du Père. Il est appelé Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Il est même carrément appelé Dieu ou Seigneur, qui désigne Dieu. S'il avait péché une seule fois, combien aurait été le déshonneur pour Dieu Créateur? Mais puisqu'il a été parfait, il a parfaitement honoré le nom de Dieu qui avait été posé sur lui. Et le nom de Dieu a été honoré et même est encore honoré par Jésus. Lorsqu'on adore Jésus, sur qui le nom de Dieu est posé, c'est un grand honneur même à Dieu. Au point où est-ce que le nom de Jésus lui-même a été élevé au-dessus de tous les noms, au niveau le plus haut. Dans Philippiens 2:9, on lit « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Donc Jésus, non seulement il a parfaitement respecté ce commandement d'honorer Dieu, mais en plus, lui-même, il est celui qui porte le nom de Dieu et qui élève le nom de Dieu à une gloire supérieure, à une gloire infinie, ultime. Comment Jésus veut-il que nous agissions à l'égard de cela? C'est sûr que le principe demeure. Il veut d'ailleurs que nous continuions à honorer le nom de Dieu, à le sanctifier, à considérer que le nom de Dieu est à part, qu'il est saint. Et c'est même parmi les premières paroles dans l'exemple de prière du Notre Père que Jésus nous a laissé, un exemple de prière quotidienne. Que ton nom soit sanctifié. C'est pas seulement un souhait quelconque, mais c'est en même temps un engagement. On veut que le nom du Seigneur, le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, que les gens qui nous regardent ne blasphèment pas le nom de Dieu, ne se moquent pas de lui en nous regardant, qu'on soit de dignes représentants du nom de Dieu. Et ça va de soi qu'on devrait avoir pour le nom de Jésus, qui est élevé au rang de Dieu Créateur, on devrait avoir pour le nom de Jésus le même respect. Un profond respect. Est-ce qu'on peut dire que le nom de Jésus est apposé sur nous? Oui, puisque dès les débuts, dès les premières églises, les disciples de Jésus ont été appelés des chrétiens. des petits Christ, ceux qui suivent Christ. Nous, en étant appelés des chrétiens, même en se nommant nous-mêmes chrétiens, nous devenons des représentants du nom de Jésus. Et on n'est pas chrétien seulement lorsqu'on vient à l'église le dimanche matin ou lorsqu'on se réunit en semaine pour une réunion de prière. On est chrétien en réalité 24 heures sur 24 toute la semaine. Mais c'est soit qu'on agit d'une manière qui va honorer le nom de Jésus ou on va agir d'une manière qui va déshonorer le nom de Jésus. Mais on ne peut pas dire, ah ben là, finalement, je mets une pause. Là, je n'agis pas en nom de chrétien, je prends un autre chapeau. Donc, je ne serai pas coupable, là, je ne suis pas chrétien dans ce moment-là. C'est pas vrai, on est chrétien en tout temps, qu'on le veuille ou non. Ce que ça revient à dire, c'est qu'on va soit respecter le nom de Jésus, l'honorer, ou le déshonorer. Et lorsqu'on se fait baptiser, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et on s'engage, en fait, dans cette nouvelle vie chrétienne, à honorer le Dieu trinitaire, même qui porte ses trois noms. Et c'est la prière de Paul pour les Thessaloniciens. C'est une prière, dans le fond, que nous pouvons même adresser à Dieu pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous. » Comment le nom de Jésus peut être honoré? Même il y a des champs où est-ce qu'on souhaite que le nom de Jésus soit élevé, exalté. Mais comment il peut l'être? C'est en nous, c'est par l'Église. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Et on voit l'importance de ce commandement de Dieu de ne pas tenir son nom en vain, de ne pas le prendre en vain, parce que Dieu ajoute, parce qu'on pourrait penser que c'est secondaire, Dieu ajoute dans les commandements, « Je ne tiendrai pas pour innocent celui qui prendra mon nom en vain. » Il y a des conséquences à utiliser le nom de Dieu en vain. Et même dans le Nouveau Testament, Dieu, même si nous sommes sous une alliance de grâce et que Dieu est toujours prêt à pardonner, il annonce qu'il va nous corriger si on agit d'une manière insensée ou si on le déshonore. Donc, déshonorer Dieu en utilisant de manière mauvaise son nom peut nous attirer la correction de Dieu, une correction sévère. Qu'est-ce qui déshonore le nom de Dieu ou de Jésus? De manière pratique, il y a peut-être plusieurs exemples qui vous viennent en tête, mais on peut penser à une manière de parler où est-ce qu'on utilise toujours le nom de Dieu simplement pour manifester une surprise. « Oh my God » ou « Oh Seigneur ». Est-ce qu'on est vraiment en train de s'adresser au Seigneur lorsqu'on dit ça? En tant que chrétien, on devrait faire attention. Et parfois même, on utilise cette expression-là pour une situation qui n'a aucun rapport avec Dieu. Ou en tout cas, on n'a pas du tout la question de Dieu en tête. C'est vraiment de l'utiliser pour une chose vaine. Et ça rend le nom de Dieu comme banal. Parfois, on l'utilise vraiment pour une chose mauvaise. Au Québec, on est fort là-dessus, là. Je ne dis pas nous, mais la population québécoise, pour blasphémer, pour sacrer. On se cogne un orteil sur le coin d'un bureau, puis... bip, 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 mais ça sort. On utilise même le nom de Dieu d'une manière conjuguée comme un verbe. C'est même comique jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'on s'arrête pour y penser, c'est vraiment un déshonneur pour notre Dieu. Parfois, les gens vont exprimer leur colère en utilisant le nom de Dieu ou le nom de Jésus ou vont proférer des menaces envers quelqu'un en utilisant le nom de Jésus. Mais c'est grave, ça. Alors que Jésus nous dit de ne pas maudire et d'aimer notre ennemi, certains vont maudire et haïr leur ennemi en utilisant le nom de Jésus. C'est vraiment, eux-mêmes sont en train de blasphémer le nom de Dieu. On peut parfois l'utiliser même pour jurer, alors que Jésus nous dit, ne jurez pas, là, que votre oui, que votre non soit non. Tenez parole, soyez sincères. Mais des chrétiens peuvent jurer devant Dieu, là. Je veux faire ci, je veux faire cela. Ou pour démontrer qu'ils sont vraiment sincères, je le jure, je n'ai jamais menti de toute ma vie. C'est dangereux de faire ce genre de déclaration-là. Mais après, justement, personne ne peut s'étonner que Dieu la corrige. Il faut faire attention, là, Dieu ne prend pas à la légère ce que l'on dit. Ou, carrément, prétendre agir au nom de Christ pour faire telle ou telle chose, et en réalité avoir des intérêts cachés, des intérêts personnels, avoir un agenda secret. Par exemple, amasser de l'argent, supposément pour un projet pour Dieu, mais qu'en réalité, on veut s'en mettre dans les poches. C'est utiliser le nom de Dieu, en fait, pour une cause personnelle. C'est vraiment malhonnête aux yeux de Dieu. Ou l'utiliser, on voit des gens qui veulent gagner des élections parfois et qui vont dire qu'ils sont chrétiens, ils vont recevoir la bénédiction d'un pasteur pour s'attirer des votes. Alors que, est-ce qu'ils sont sincères ou non? Parfois, on peut en douter. Et toutes nos fautes, incluant nos blasphèmes, ont été portées sur le dos de Jésus qui a payé pour nous. Si on est conscient de cela et qu'on se retourne vers Dieu en lui demandant pardon, il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Au verset 8 maintenant, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. » Un deuxième commandement. Mais ce deuxième commandement, je crois, est aussi en lien avec l'honneur qui est dû au Dieu. Et ici, c'est spécifié même au Dieu créateur. En fait, il devait, en tant que peuple, s'identifier au Dieu qui a créé le monde. Et même Dieu a montré comment il a créé le monde en 6 jours dans la Genèse. Un peu pour cela, ici, il le rappelle. Et il veut, dans le fond, que son peuple s'identifie à lui. Comme j'ai créé le monde en 6 jours, je me suis reposé le 7e, vous allez faire comme moi. Vous allez être le peuple qui fait comme le Créateur. Vous allez vous identifier à moi dans votre vie de tous les jours, hebdomadaire. Donc, c'était une manière très concrète d'honorer le Créateur. Et ça allait devenir même le signe distinctif principal d'Israël. Quand les autres nations allaient voir ce peuple-là, « Ah, ça, c'est le peuple qui fait les sabbats, là, qui fait toutes les fêtes le 7e jour. » Parce qu'en fait, le sabbat venait régulariser le rythme même de l'adoration du Seigneur, venait donner une forme précise au culte. Même venait dire que la manière dont Dieu voulait être adoré, c'était pas seulement individuellement, mais c'était collectivement. Ils prenaient tous le sabbat le même jour. C'était pas la décision de chacun. Et ils se réunissaient pour adorer Dieu. Ça se passait en famille, toute la maison, toute la communauté. Donc Dieu montrait sa volonté. Mais c'était vraiment un signe, on le voit plus loin dans Exode 31. « Vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi. Dans toutes vos générations, grâce auxquelles on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Je suis l'Éternel qui vous rend saint, qui vous met à part des autres peuples. » Ce sera une manière très visuelle pour les autres peuples de voir, « Ah, ça, c'est le peuple de l'Éternel. » Donc, ne pas respecter les sabbats, c'était vraiment déshonorer Dieu. Mais aussi, pourquoi Dieu donne le sabbat? C'était pour leur bien. C'était pour qu'ils se reposent, de manière très concrète. Là. Dieu voulait qu'ils se reposent, qu'ils ne travaillent pas. Même personne dans la maison. Pas seulement le maître de la maison qui se repose, mais tout le monde, serviteurs, servantes, même le bétail, même le bœuf qui laboure le champ là, ce jour-là, tout le monde est à l'arrêt. Tout le monde est en mode repos, en mode veille. Même Jésus le confirme dans Marc 2, 27, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Dieu donne une loi qui est bonne. Mais ce n'est... Donc, il devait se réjouir. C'était pour la joie de son peuple ce jour-là. Mais ce n'était pas seulement une joie individuelle, même égoïste. C'était une joie qui devait être partagée avec Dieu. C'était un jour pour fêter, célébrer avec Dieu, pour se réjouir avec le Dieu créateur. C'était aussi une manière et une bonne occasion pour le peuple de se souvenir. Quand il répète ce commandement-là dans Deutéronome, il dit... Dans Deutéronome 5, « Le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » Donc, il y avait un but. Ça servait bien sûr pour le repos physique, mental, pour le bien-être de son peuple. Mais il y avait un objectif aussi, c'était que le peuple utilise cette journée-là, à part, pendant la semaine, pour célébrer Dieu, entre autres en se souvenant de ce que Dieu avait fait. Et la plus grande œuvre qu'il avait fait pour eux, c'était qu'il les avait libérés de l'esclavage à un endroit où ils n'étaient pas un peuple. Il a fait d'eux un peuple, et il s'est établi roi sur eux. Et en plus, il va leur donner une terre. Est-ce que nous devons, nous, pratiquer le sabbat? Si vous parlez avec un bon adventiste, il va dire que oui. C'est même une condition pour être sauvé. Mais nous croyons que non. Premièrement, parce que Jésus ne l'a pas ordonné. Nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus dit de respecter le sabbat. On voit que Jésus tenait une importance quand même à respecter le sabbat, mais puisqu'il était lui-même sous la loi de Moïse, et il a pratiqué les commandements à la perfection. Il a même corrigé une mauvaise pensée, un mauvais enseignement, que supposément le sabbat, au sabbat, on n'était pas autorisé de faire le moindre effort pour aider quelqu'un. Jésus corrige, non, le sabbat est fait pour le bien de l'homme, c'est sûr que c'est une occasion de faire du bien. On le voit d'ailleurs que si toute la maison doit être en repos, c'est parce qu'on doit être conscient que du bien des autres dans la maison, le bien-être de la communauté. Mais Jésus lui-même n'a pas ordonné à ses disciples, à ses apôtres, que dans l'Église, on pratique le sabbat. Jésus déclare plutôt qu'il est, lui, le repos. Et que ce repos-là est constant. C'est même plus seulement un jour par semaine. C'est un repos qui est constant. On peut se reposer en Jésus, en tout temps. Et c'est lui, en fait, qui est le repos. Matthieu 11, 28, 30 dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau léger. » Dans Hébreux 4 aussi, on lit, « Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Un repos où on n'a pas à gagner notre ciel, où la vie éternelle nous est offerte gratuitement. On n'a pas à gagner la faveur de Dieu. Dieu nous offre sa faveur, sa grâce, gratuitement. Donc, c'est un repos continuel. Dans le fond, même le sabbat dans l'Ancien Testament préfigure, c'est comme une image de Jésus. C'était pour déjà ancrer dans la pensée du peuple de Dieu que Dieu voulait donner un repos à son peuple. Et ce repos-là, c'est Jésus. Dans Colossiens 2, on dit « Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. » Donc, que personne ne vous juge si vous ne pratiquez pas le sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Donc, en se reposant en Christ, en réalité, on accomplit la volonté de Dieu. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le dimanche, le premier jour de la semaine, n'est pas le nouveau sabbat. On pourrait le croire, mais ce n'est pas enseigné dans le Nouveau Testament. Il n'y a aucun passage qui dit « Maintenant, le sabbat, vous allez le pratiquer le premier jour de la semaine. » Les premiers chrétiens, d'ailleurs, mais on lit dans Acte 2, qui se réunissaient à tous les jours dans le temple. Plus tard, on voit qu'ils ont pris l'habitude de se réunir, entre autres, le premier jour de la semaine. C'était le jour de la résurrection de Jésus. C'était le jour de l'établissement de la première Église à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été donné. Donc, c'était un jour que les chrétiens voulaient commémorer. Ils ont pris l'habitude de se réunir ce jour-là, mais il n'y a aucune obligation de ne pas travailler ce jour-là. Il n'y a aucune obligation non plus de se réunir le dimanche. Mais même si on ne pratique pas le sabbat et que le dimanche n'est pas l'équivalent du sabbat, la pensée derrière est encore bonne. Et c'est sage, en fait, de perpétuer cette bonne tradition, cette bonne habitude. Prendre le temps, une fois par semaine, de se reposer physiquement, mentalement. Il semble que Dieu nous ait conçus, nous a fabriqués comme ça. Ça fait partie du mode d'emploi. Et si on ne le fait pas, puis qu'on travaille 7 jours sur 7 sans arrêt, à un moment donné, il y a quelque chose qui casse. Mais c'est la volonté de Dieu, il nous a fait comme ça. Donc, c'est bon de prendre un temps pour s'arrêter. Et comme le sabbat était pour tous dans la maison, c'est bon aussi de veiller au bien-être des frères et sœurs. Et lorsqu'on s'arrête, de prendre le temps aussi de veiller à ce que les autres dans la maison s'arrêtent. De veiller au confort, au bien-être de nos proches et de nos frères chrétiens. C'est bon de s'arrêter au moins une fois par semaine pour louer le Seigneur ensemble pour ses bienfaits. On le loue par nos chants, on le loue lorsqu'on prie, et on partage aussi des bonnes nouvelles. On loue ensemble le Seigneur qu'il a guéri notre frère Jacques, qu'il a pu diriger la main des médecins. C'est un sujet de réjouissance. On ne doit pas oublier la plus grande œuvre que Dieu a faite pour nous, c'est qu'il nous a libérés de l'esclavage, non pas de l'Égypte, l'esclavage du péché. Il a fait de nous un peuple. Et ça, c'est une occasion, lorsqu'on se réunit, pour se le rappeler, commémorer la mort de Jésus et sa résurrection. C'est bon de sacrifier un temps pour le Seigneur aussi. On pourrait être en train de travailler et gagner un salaire. On prend un temps où est-ce qu'on ne gagne pas de salaire, on sacrifie ce temps-là pour le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, aussi pour l'écouter, étudier sa parole. Et la résurrection de Jésus, comme je disais, et le don du Saint-Esprit, tous ces deux événements-là, sont survenus un dimanche. Et les chrétiens ont pris la tradition de se réunir le dimanche. Et on lit des textes, même qui ne sont pas dans la Bible, mais d'autres textes qui témoignent de l'habitude des chrétiens à l'époque, comme l'a dit Didachée. Et ils se réunissaient le premier jour de la semaine. C'était une habitude qui a été perpétuée même, et les chrétiens ont jugé bon, à travers toutes les époques, de continuer de se réunir le dimanche. Alors pourquoi ne pas continuer? C'est sûr que si on était dans l'impossibilité, on pourrait se réunir un autre jour de la semaine. Mais c'est un bon jour. Dans Actes 20, on lit « Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. » Dans 1 Corinthiens, « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il pourra chez lui, selon ses moyens, pour donner aux offrandes. » Et on voit que lorsque l'apôtre Jean a reçu la révélation qui a fait en sorte qu'il a écrit l'Apocalypse, le dernier livre écrit dans la Bible, c'était un dimanche qu'il appelle le jour du Seigneur. C'était même déjà devenu une expression chez les chrétiens. Le premier jour de la semaine était appelé le jour du Seigneur. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Donc, on ne doit pas voir cela comme une obligation. Dieu nous donne une grande liberté dans la Nouvelle Alliance, mais c'est une bonne chose. Et le dernier commandement que nous regardons aujourd'hui, c'est celui d'honorer ses parents. Verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, l'Israélite devait avoir une attitude respectueuse envers ses parents. En tant qu'enfant, ça va de soi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire l'obéissance. Un enfant qui honore ses parents, c'est en obéissant à ses parents. Parce qu'un enfant qui désobéit, n'honore pas. Il déshonore plutôt. Il fait honte même à ses parents. Mais on voit dans la pensée de Dieu que pendant toute notre vie, on est exhorté à honorer nos parents. Toute notre vie, en fait, on doit leur donner un respect. Dans Proverbes 23, 22, il est écrit « Écoute ton père qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille même. » Gardez un profond respect toute notre vie. Puis on peut dire tout de suite que ce commandement-là, il est répété dans le Nouveau Testament. Donc c'est quelque chose que Jésus a répété et qu'il nous enseigne, particulièrement aux enfants dans Éphésiens 6. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Effectivement, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. La promesse ici, c'était « Afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, c'était vraiment appliqué au contexte de la nouvelle terre, la terre promise que Dieu leur accordait. Donc, s'ils voulaient vivre longtemps dans ce pays-là où Dieu mettait son nom, ils devaient avoir un honneur pour les parents. Sinon, ils pouvaient être retranchés du pays ou même individuellement mourir. Ici, dans le Nouveau Testament, c'est devenu « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre de manière générale. » Donc, ce n'est pas seulement dans le pays de la terre d'Israël. Mais ce commandement-là est accompagné d'une promesse. Donc, on comprend que Dieu faisait en sorte, soit par un commandement qu'il donne dans sa loi, ou soit par le concours des événements, que quelqu'un vive moins longtemps s'il déshonore ses parents. Et on voit des exemples de cela dans l'Ancien Testament, sans que ce soit nécessairement dit, mais on le voit. Proverbe 20:20 dit « Si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Ou Proverbe 30, « L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le dévoreront. » Donc, c'est possible même pour nous, en tant que chrétiens, si nous déshonorons nos parents, d'en subir les conséquences. Même si nous sommes sous la grâce et que ça ne va pas faire en sorte qu'on va perdre notre salut. La vie éternelle nous est acquise, elle est assurée. Mais Dieu peut nous corriger sur la terre. Et je suppose que c'est même possible que quelqu'un voit sa vie écourtée à cause de cela. Dieu peut dire maintenant, c'est assez. Donc, la conséquence est grave. Pourquoi c'est si important pour Dieu? Parce qu'encore là, ce commandement-là, même s'il est dirigé envers les hommes, on voit que c'est dans la catégorie des commandements entre les hommes dans le peuple de Dieu. Mais il est directement lié avec l'honneur voué à Dieu, le Créateur. Parce qu'on lit dans Genèse que c'est Dieu qui a créé le premier homme, la première femme, à son image. Et sa volonté, c'était qu'ils s'unissent, qu'ils deviennent une seule chair, qu'ils dominent sur la création, qu'ils se multiplient, qu'ils se reproduisent. Mais dans le fond, ils étaient le premier homme, la première femme, le représentant de Dieu sur la création. Les êtres humains sont les représentants de Dieu. Et c'est Adam et Ève qui étaient chargés de transmettre cette volonté-là de Dieu à leurs enfants. Donc, face à leurs enfants, Adam et Ève étaient les représentants de Dieu, faits à son image. Et normalement, s'ils avaient été sans péché, ils auraient été une image parfaite de Dieu envers leurs enfants. Mais ça demeure quand même la volonté de Dieu, même si le péché est venu dans le monde, que les parents représentent Dieu face à leurs enfants. Et que les enfants considèrent leurs parents comme des représentants de Dieu pour leur transmettre l'instruction de Dieu, le respect. On voit même dans la généalogie de Jésus, dans Luc 3, Luc prend la peine de dire que Jésus était fils de Joseph, fils d'Élie, il continue, fils de David, il continue plus loin, fils d'Abraham, encore plus loin, fils de Noé, et il remonte encore, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Dieu est montré comme notre Père, celui qui nous a engendrés. Et de père en fils, en réalité, lorsqu'on honore nos parents, on honore le premier parent. L'arrière-arrière-arrière-grand-parent, c'est-à-dire Dieu lui-même, le Créateur. Donc, déshonorer nos parents, c'est déshonorer Dieu. Comment on peut honorer nos parents? Premièrement, en écoutant leur instruction. Dans Proverbe 1:8, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » C'est sûr que ça va... Il y a une condition, c'est que si leur instruction est conforme à la volonté de Dieu. Si l'instruction d'un père ou d'une mère est contraire à ce que Dieu enseigne, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et même si un parent vit dans le péché et qu'il se dit chrétien, on a même le devoir, même en tant qu'enfant, d'exhorter, de reprendre, mais avec douceur, sans manquer de respect. On lit dans Timothée 5, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les femmes âgées comme des mères, en toute pureté. » Les honorer, ça veut dire aussi parler d'eux en bien. C'est pas négligeable ce qu'on va dire d'eux. On peut maintenir une bonne réputation comme on peut détériorer ou détruire leur réputation en les critiquant ou en se moquant d'eux. Ça veut dire aussi d'une manière très pratique de prendre soin d'eux, même à l'heure de leur vieillesse. Les Juifs, au temps de Jésus, se vantaient d'honorer les parents puis d'accomplir le commandement. Mais ils avaient tout un système de tradition. Et si quelqu'un avait pris de l'argent à part qu'il voulait donner à ses parents pour leurs soins, mais qu'il disait, « Ah, finalement, cet argent-là, je vais le donner au temple », les pharisiens leur disaient, « C'est correct, tu fais bien. » Puis là, les parents pourraient mourir de faim, c'est pas grave, parce qu'ils l'avaient donné au temple. Et Jésus les reprend sévèrement. « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère. » Donc, Dieu mérite tout honneur. Et on a vu trois exemples ici où Dieu veut spécifiquement qu'on l'honore, spécialement. Il veut qu'on honore son saint nom par nos paroles, par nos actions, notre pensée. Dans le fond, par toute notre vie, il veut qu'on honore le nom de Jésus qui a été apposé sur nous. Deuxièmement, il veut qu'on prenne le temps de l'adorer. Ça, c'est une manière d'honorer son nom. Et d'être conscient de ce que l'on fait, là. Lorsqu'on chante les paroles d'un chant, qu'on chante à l'honneur de Dieu, qu'on utilise le nom de Dieu même dans, dans nos chants, mais qu'on est en train de penser à notre liste d'épicerie, c'est pas un honneur. Ou si on vit d'une manière qui n'est pas conforme, même. On chante qu'on veut que le Seigneur nous sanctifie, on veut lui donner toute notre vie, mais ça, ça doit être vrai, ça doit être sincère. Et il veut qu'on cherche notre, notre repos en lui, qu'on soit conscient de tous ses bienfaits, ses bénédictions, qu'on le loue pour cela, qu'on se les rappelle, que lorsqu'on est dans la détresse, qu'on se souvienne du Dieu qui nous aime et qu'on retourne à lui, qu'on trouve en lui le repos pour nos âmes. Et il veut qu'on honore le Créateur qui, par nos parents, nous a donné la vie et qui sont ses représentants. Ce n'est pas une petite tâche, mais on lit dans Hébreux 13 que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, qu'il vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.